Seigneur Jésus, nous avons manqué de miséricorde pour les hommes et les femmes qui ont été victimes d'abus sexuels de la part de prêtres ou d'éducateurs au sein de ton Église. Nous n'avons pas assez écouté ces victimes comme elles l'attendaient, et nous ne les avons pas toujours accompagnées avec la compassion et la fidélité nécessaires. Pour ces péchés, Seigneur Jésus, nous te supplions et nous implorons ton pardon.
Donnée pour les victimes, c'était en 2016 à l'initiative du pape à Lourdes. Avant de retrouver comme un jeudi sur deux le rendez-vous de la médiatrice dans l'actualité des idées aujourd'hui, le procès Barbarin est-il aussi celui de l'Église? Un procès qui s'est ouvert lundi au tribunal correctionnel de Lyon. L'archevêque de Lyon y comparaît pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs dans l'affaire du père Prénat, une première. Elle publie « Qu'avez-vous fait de Jésus ?» chez Albin Michel, un livre où elle interpelle les responsables de l'Église catholique sur les dysfonctionnements et le désastre moral que ces scandales révèlent et leur demande de réagir. Directrice de Témoignages chrétiens, notre invitée Christine Pedotti est aussi à l'initiative d'un appel lancé en septembre dernier demandant la création d'une commission parlementaire qui ferait toute la transparence nécessaire sur les crimes de pédophilie et leur dissimulation par l'Église catholique. Une proposition parlementaire en ce sens n'a déjà pas abouti. La conférence des évêques de France a choisi, rappelons-le de son côté, de monter sa propre commission indépendante. Christine Pedotti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, pas chroniqueuse judiciaire. Néanmoins, on imagine que vous avez suivi de près le procès dit Barbarin, procès en cours qui s'est ouvert depuis lundi à Lyon. Quelle portée symbolique ou juridique lui accordez-vous, en attendez-vous?
Je dois dire que les jours passant, je suis de plus en plus attristé par ce qui se passe. Au fond, il se passe un théâtre judiciaire très ordinaire. Les avocats font leur boulot, ils plaident, etc. Et je me dis, mais est-ce que c'est très chrétien, toute cette affaire? Le cardinal Barbarin, est-ce qu'il est légitime, moral, que, au fond, il permette à ses avocats de traiter l'affaire comme n'importe quelle affaire judiciaire? C'est ça qui me travaille depuis le début de cette affaire-là. Il s'est mis à genoux, le cardinal Barbarin.
La formule que vous avez eue, est-ce que c'est très chrétien? C'est pas ce qu'on attend d'un procès pénal dans un tribunal correctionnel.
C'est quand même ce qu'on attend d'un cardinal archevêque catholique. C'est ce qu'on est en droit d'attendre de lui. Au fond, peut-être que ce procès aurait pu être un témoignage fort de ce que c'est qu'un acte chrétien. Ce cardinal-là, le cardinal Barbarin, s'était mis à genoux dans une église pour dire qu'il était responsable, pour demander pardon. Et là, en fait, il fait parler ses avocats et il se défend devant la justice des hommes. Alors on peut dire, il y a la justice des hommes d'un côté et ce qui se passe dans une église de l'autre. Mais un chrétien, ça n'est pas un homme clivé, ça n'est pas un homme partagé, ça n'est pas un homme qui a une parole devant la justice et une autre parole dans une église. Et au fond, moi, je suis dans un grand trouble devant ce que je vois de ce procès.
Pourtant, c'est l'idée qu'il défend quand il dit « je n'ai qu'un seul juge qui est le Seigneur ».
Oui, mais justement, peut-être que là, il y avait une circonstance pour porter un témoignage de ce que c'est que la responsabilité d'un homme d'église. En tous les cas, je me pose la question. Je suis très troublée par les arguties judiciaires, c'est-à-dire l'irrecevabilité qui a été plaidée dès le premier jour, et puis la disqualification des plaignants où on les a accusés de chercher une sorte de quart d'heure warolien. Comment est-ce qu'on peut oser quand on est un avocat d'un évêque prétendre que le plaignant cherche un quart d'heure de gloire médiatique alors qu'il a été violé par un prêtre quand il avait 12 ans. Enfin, je veux dire, tout ça est juste dégoûtant.
Mais en même temps, tout ça.
Alors, c'est juridiquement. Ils ont le droit. Ils ont le droit.
Et on est dans un état de droit. Et c'est le même droit qui s'applique à tous. Il faut juste un mot sur cette procédure qui est quand même très particulière, pardon. Et juste pour expliquer à ceux qui nous écoutent. Hier, aucune condamnation n'a été requise au cours de ce procès. Cette position du parquet va dans le sens du droit et de la logique du classement sans suite qui avait été décidé à l'été 2016 après l'enquête parlementaire. Oui. Il y a, et on va en reparler, il est beaucoup question ici de prescription des faits. S'il y a un procès possible aujourd'hui, c'est que les plaignants sont passés par une autre procédure qu'on appelle une procédure de citation directe et qui rend probablement aussi assez illisible, et on l'entend à travers votre observation, Christine Pedotti, ce qui est en train de se jouer dans cette cour. Mais la procureure l'a aussi rappelé hier, elle a tenté de faire œuvre de pédagogie, elle a rappelé que son rôle était de veiller, et ça c'est pour tous les procès pareils, à l'interprétation stricte de l'infraction pénale.
Mais d'une certaine façon, que la procureure fasse son travail dans un cadre strictement juridique, je trouve ça normal, et qu'elle ne requiert pas, quand le parquet de son côté avait classé sans suite, ça montre une cohérence. Donc, au fond, ce n'est pas ça que je juge. Moi, je m'interroge sur la position de témoin qu'a le cardinal Barbarin, et ceux qui sont autour, mais lui principalement. Je veux dire, il est supposé être chrétien, il est supposé donner un rendre témoignage. Et je suis assez troublée par cette attitude, comme je l'avais été d'ailleurs il y a bien longtemps au cours du procès Pican, où l'évêque Pican, dans une affaire qui a annoncé les débuts des affaires de pédophilie en France en 2000, s'était défendu bec et ongles sur son innocence, je veux dire, sans demander pardon. Et au fond, il me semble que il y a là une responsabilité morale, spirituelle même, qui moi, m'interpelle.
Donc vous attendiez de lui qu'il aille plus loin, qu'il y ait un mea culpa clairement formulé, voire qu'il plaide coupable
au sens... En fait, je pense qu'en l'occurrence, il aurait été judicieux de faire le distinguo entre être coupable et être responsable. Il aurait pu assumer clairement sa responsabilité aussi au nom de ses prédécesseurs. Et ceci parce que il appartient en effet à la longue chaîne des évêques qui se sont succédés. Il est intimement lié à ses prédécesseurs. Vous savez qu'on est quand même, il est le quatrième des évêques cardinaux de Lyon, des archevêques cardinaux de Lyon, qui ont eu à traiter de l'affaire Prena. D'une certaine façon, chacun pour leur propre compte, que ce soit le cardinal de Courtrai le premier, le cardinal Ballan, puis le cardinal Billet, aujourd'hui le cardinal Barbarin, étaient des hommes tout à fait remarquables. Moi, il se trouve que j'en ai connu. Et donc, en fait, le fait est que la responsabilité, elle est collective parce que c'est la responsabilité d'un système. Et que, au fond, je ne souhaite aucun mal au cardinal Philippe Barbarin. Vraiment,
mais
en tant que personne.
Mais c'est le procès d'un homme. C'est peut-être la responsabilité d'un système, et on va y venir, mais c'est le procès d'un homme, voire de six hommes, puisqu'il comparait aux côtés de cinq anciens membres du diocèse de Lyon.
Je pense que chaque accusé est responsable de la façon dont son avocat plaide, parce qu'on donne quand même des indications à son avocat. J'eusse aimé qu'il puisse plaider la responsabilité, même dans la non-culpabilité.
On va écouter ses mots, puisqu'il s'est déjà prononcé quand même sur cette affaire, sur ses reproches aussi qui lui étaient faits, ceux de ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles commises dans les années 80-90, dont il a eu connaissance jusqu'à plus tard. Une action donc en justice portée aujourd'hui par l'association des victimes du père Prena, après une formule controversée sur la prescription des faits. Il a reconnu, le cardinal Barbarin, des erreurs et il a demandé pardon. A-t-il des regrets? C'était la question qui lui était posée en novembre dernier par Radio Notre-Dame.
Ce que je regrette le plus, c'est ces actes infâmes et indignes qui ont été faits par des frères et par des prêtres. Donc, alors là où j'ai beaucoup changé, c'est que, si vous voulez, quand j'entendais parler de ces trucs-là, il y a 15, 20 ans ou comme ça, je me disais, c'est affreux, c'est indigne, c'est une trahison de ces prêtres dans leur vocation d'avoir fait des choses comme ça. Maintenant, au fond, je pensais pas directement au gamin, parce que, ou sans doute, peut-être parce qu'un gamin, quand il grandit, il rebondit, puis après, sa vie, sa jeunesse, son adolescence et tout ça. Et maintenant, non. Maintenant, comme je les ai écoutés beaucoup, très nombreux et très longtemps, et vraiment des victimes tous azimuts, des garçons, des filles, des gens qui ont 30, 40 ans, etc. Et même aussi, j'ai beaucoup lu, j'en ai lu beaucoup et rencontré des quantités, et je me suis aperçu, c'est une destruction profonde de ces personnes, et que ça, c'est épouvantable de voir des vies de gens qui ont maintenant 40 et 50 ans et qui sont détruites intérieurement parce que jamais personne ne les a compris, ne les a écoutés en profondeur et tout et tout. Et même chez leurs proches, les réflexions qu'ils recevaient les blessaient encore plus, quoi. Donc ça, c'est vraiment le fait de les avoir accueillis qui m'a complètement transformé. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont maintenant, j'espère, tout le monde a pris conscience.
Vous qui appelez Christine Pedotti dans votre ouvrage, qu'avez-vous fait de Jésus à une prise de conscience, à une reconnaissance aussi des crimes commis et du mal que ça a pu faire aux victimes? Est-ce que vous entendez dans ces mots un début de prise de conscience?
Oui, alors,
voire plus.
Vraiment, moi j'ai essayé de comprendre pourquoi ils n'avaient pas compris. Parce que finalement, depuis la lettre du 20 août du pape François, les responsables, les divers évêques se sont exprimés, beaucoup d'évêques se sont exprimés, et divers responsables d'église. Et finalement, ils ont tous dit ce que le cardinal Barbarin vient de dire, on ne savait pas, on ne se rendait pas compte. Je me suis dit, mais comment c'est possible que ces hommes-là aient pu ne pas comprendre ce que ça pouvait faire à un enfant d'être violé par un homme adulte? Ça m'a sidéré. Je me dis, comment ça peut ne pas rentrer dans leur tête? Comment ils peuvent ne pas comprendre l'atteinte au corps? C'est un enfant, il rebondira, etc. Ils vivent dans le même monde que moi. On est en 2019 pour tout le monde. Comment c'est possible? Et j'ai été regarder de près ce qui était dit autour de la sexualité dans l'Église catholique, ce qui était dit autour de l'atteinte, le viol et tout. Et j'ai découvert qu'en fait, on parlait du viol de la chasteté, du viol de la charité, à propos du viol, à propos des atteintes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse aux choses du point de vue du coupable qui viole une idée, et pas du point de vue de la victime dont le corps est violé. Vous voyez à quel point c'est différent. D'où la découverte que fait Philippe Barbarin, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, qu'en fait, il y a effectivement eu des personnes détruites intimement.
Et vous les comparez dans votre livre à la caricature des petits singes de la sagesse orientale, se cachant les yeux pour ne rien voir, les oreilles pour ne rien entendre et la bouche pour ne rien dénoncer.
Hein. Oui. Vous savez, ce qui m'a le plus frappé, c'est que moi, ces hommes-là, je les connais effectivement. Je veux dire, je ne suis pas à l'extérieur de cette maison. J'ai bossé avec beaucoup d'entre eux. Certains sont des amis. Enfin, je ne sais pas s'ils sont encore des amis, s'ils ont lu mon livre, mais voilà. Et je me dis, mais comment est-ce que cette dimension de l'humanité n'a pas été évidente? Comment ils ont pu ne pas se pencher sur le malheur, la blessure, etc. Et je me dis, mais ils sont victimes d'un système, ils sont victimes d'une culture. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, le pape François lui-même emploie ces mots. Il dit, il y a une culture de l'abus, et il la décline, abus de pouvoir, abus de conscience, abus sexuel. Eh bien, face à cette culture de l'abus, il faut faire une révolution culturelle, parce que on voit que, au fond, c'est cette culture-là qui les rend incapables de comprendre ce qui est en jeu. Et pour moi, c'est extrêmement grave, parce qu'on est dans un système de contre-témoignage qui est épouvantable, parce que ça n'est pas la même chose quand c'est un prêtre ou un évêque qui ne comprend pas ce qui se passe quand un enfant est violé, quand un corps est atteint, que lorsque c'est, un professeur d'équitation. Enfin, c'est pas la même chose, parce que eux se targuent de savoir ce que c'est que l'humanité et de nous dire quelque chose pour que nous sauvions notre humanité. Si ceux dont la charge est de dire quelque chose qui sauve l'humanité et qu'ils ne comprennent pas ce béaba là, nous avons un très très grave problème.
Et vous l'écrivez, tous ces hommes, prêtres jusqu'à cardinaux, ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Et vous le dites vous-même, ce ne sont pas tant des hommes que vous jugez, vous, mais un système, ce qui a pu, le système qui a aussi pu produire ce silence. Dans ce cas-là, est-ce que vous comprenez aussi, et j'en reviens à lui, la réaction de Monseigneur Barbarin lorsqu'il dit à la veille du procès, j'ai mis en œuvre ce qui m'avait été dit par Rome. Après, tout le monde est tombé sur moi. Est-ce qu'on cherche à travers lui aussi, en mettant sur ce procès et l'attente qu'on peut avoir en lui en termes de libération de la parole, une certaine pression médiatique aussi, est-ce qu'on n'est pas en train de chercher un coupable alors que c'est le système tout entier qu'il faudrait juger aujourd'hui?
En l'occurrence, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que Philippe Barbarin, il est cardinal archevêque de Lyon, il est primat des Gaules. C'est donc, en termes de hiérarchie, la première ou la deuxième personnalité religieuse en France, dans le monde catholique. Donc forcément, sur ses épaules, pèse un poids symbolique bien supérieur à l'homme Philippe Barbarin lui-même. Donc on ne peut pas se dépouiller de ça. Je veux dire, il a revêtu la pourpre, je veux dire, ce rôle, il est un des conseillers du pape. Donc, c'est ça un cardinal, hein, c'est un conseiller du pape. Donc, au fond, c'est assez naturel que... il porte plus que sa responsabilité humaine personnelle. Il est, dire, le représentant de la hiérarchie catholique en France à un très haut niveau. Donc il ne peut pas à un moment avoir cette responsabilité et à un autre dire « je ne suis que le citoyen Barbarin ». Voilà, c'est cette dualité qui est là. Moi je lui demande en plus une autre chose. Parce que je suis une chrétienne, je lui demande de se comporter dans une responsabilité de chrétien.
Et c'est là toute l'ambiguïté et l'ambivalence de ce procès, Christine Pedotti. Ce n'est pas le procès d'ailleurs des faits, hein, rappelons-le, des crimes sexuels, mais celui de la non-dénonciation de ces faits. Et aussi, pour vous, celui des silences de l'Église, hein, pour reprendre le sous-titre de votre essai. Coupable au sens probablement moral du terme, mais le sont-ils au sens juridique, en termes juridiques, ces silences?
Alors, je veux dire, dans l'affaire Barbarin, la justice va dire, enfin, il y a effectivement des faits qui sont prescrits, donc il va bénéficier de la prescription, et puis il y a l'indétermination de savoir s'il aurait dû agir, etc. Alors, j'ai envie de dire, peut-être qu'il va s'en tirer juridiquement, mais à quel coût ? C'est-à-dire, c'est une chose terrible. Alors, c'est quand même le troisième évêque en France qui est devant la justice pour de tels faits. Moi, je souhaite surtout très vivement que, d'abord, ça alerte tout le monde, tous les responsables, qui sachent que désormais, la dénonciation est de droit. Hein. D'ailleurs, Joseph Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI, l'a rappelé en 2011. Hein, ces affaires-là passent dans les mains de la justice civile. Et donc, la dénonciation doit être de fait. J'espère que ça aura un caractère pédagogique pour eux, pour le moins. Et puis j'aimerais qu'ils prennent aussi la mesure de la responsabilité qu'ils ont du point de vue de la crédibilité du message chrétien.
J'aimerais qu'on reste sur ce moment, sur ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Comprendre aussi si on est dans un moment de rupture, de changement profond et de remise en question, en repartant, si vous le voulez bien, des témoignages d'hommes victimes de pédophilie des prêtres, extraits d'un documentaire diffusé en 2017 sur France 3, Pédophilie, un silence de cathédrale.
J'avais 8 ans et demi quand le père Bernard Prenat a commencé à abuser de moi jusqu'à mes 10 ans passés à Sainte-Foy-les-Lyon. Il m'emmène dans son bureau qui était situé un petit peu sous le clocher, donc on monte un escalier un peu sombre. J'étais pas très rassuré, parce qu'on se retrouvait un peu à l'écart des gens, mais à cette époque-là, j'avais aucun doute, quoi. Je suis un prêtre, un chef, donc bon. Je rentre dans ce bureau et au moment où il ferme la porte, là, je sentis un homme vraiment focalisé sur moi. Et donc là, il commence à vous embrasser légèrement sur la bouche, très doucement. Il vous enlève la chemise du short. Ça a dû durer 5 ou 10 minutes, je saurais pas dire, c'était très traumatisant et puis la peur de vous heurter à l'église tout simplement, à Dieu. Parce que gamin, vous avez cette espèce d'image de la religion, de Dieu qui pour vous est omniscient, omnipotent et partout et qui risque de vous juger parce que vous allez à l'encontre d'un de ses prêtres. C'était un peu ça ce qui se passait dans ma tête, donc Vous subissez, vous vous taisez, tout simplement. Mais je pense que pour tous les enfants, c'était la même chose.
Là, on entend ce qui relève presque, Christine Pedotti, d'un abus d'autorité. Vous évoquiez cette figure en estimant que là, le cas est quand même très particulier, celui des hommes d'église, avec toute la charge morale que vous attribuez, vous aussi, et charge chrétienne à cette fonction. Est-ce que vous avez le sentiment que ces faits pourraient se reproduire aujourd'hui, ou est-ce que quelque chose est en train de changer ?
Alors, d'abord, il y a le simple fait statistique, c'est-à-dire qu'il y a moins de prêtres, ils sont moins au contact d'enfants dans des milieux relativement fermés. Donc on sait que ça, c'est des circonstances favorables, parce que justement, ce sont des circonstances dans lesquelles l'abus de confiance, l'abus d'autorité peut être commis.
Alors c'est une résolution de la crise par la statistique, alors ?
Ben, en partie, oui. Hélas. Malgré tout, le pouvoir sacré, qu'est-ce que le pape appelle le cléricalisme, c'est aussi ce pouvoir du sacré. Quand on dit que, j'analyse assez longuement les faits symboliques, quand on dit qu'on est le père, qu'on est, cette espèce de paternité spirituelle, dans lequel on dit qu'au fond on est là, comme un autre Christ, qu'on est, et d'ailleurs le témoignage dit bien qu'en fait, pour moi, c'est comme si c'était Dieu. Donc il y a un potentiel d'emprise absolument formidable, et celui-là ne cesse pas. On parle beaucoup des faits de pédophilie, mais on sait aussi que dans l'Église catholique aujourd'hui, il y a des situations d'emprise psychique très fortes dans les nouvelles communautés, etc., dans lesquelles il y a une mauvaise gestion de ce pouvoir sacré. Donc c'est une question plus large. La question de la pédophilie est une des questions très graves dans une question plus large, qui est cette question de l'emprise d'un pouvoir sacré, d'un pouvoir qu'on tiendrait de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut se résigner justement au combat statistique en disant finalement, s'il y a de moins en moins de gens croyants, s'il y a moins de gens, dont moins de prêtres, s'il y a de moins en moins d'enfants, ça va s'atténuer de soi-même. Je veux dire que c'est une réponse désolante quand même. Et il me semble, pour ma part, et en tous les cas c'est le sens du combat que j'essaie de mener, c'est que la parole chrétienne, le christianisme, est une parole suffisamment précieuse pour qu'on la protège de cette perte de crédibilité qui passe par là.
Mais elle est portée par des hommes qui sont eux-mêmes faillibles ou dysfonctionnants, et vous analysez quand même ce qui est en train de se jouer, la crise qui est en train de se jouer aujourd'hui. Vous terminez le dernier chapitre de l'ouvrage et de l'avenir, donc il faut quand même s'interroger sur cet avenir, outre la question statistique. Vous interrogez ces logiques perverses du système, comme vous les nommez, et vous écrivez « On ne peut pas aimer l'Église en projetant sur elle un idéal qui n'aurait que des liens très lointains avec la pratique. L'Église n'est pas une construction théorique, elle est une réalité. » Alors, que faire pour vous aujourd'hui face à cette réalité ? Vous évoquiez les mots directement du pape François, ceux de la conférence. On entendait en ouverture cette messe donnée pour les victimes d'actes pédophiles en 2016. Comment, aujourd'hui, quelle est la marge de manœuvre du pape François de Rome pour agir ?
Alors, le pape François va recevoir les évêques du monde entier le mois prochain pour essayer d'éradiquer ça. Lui, il met le doigt sur, et je suis d'accord avec lui, sur la question, ce qu'il appelle le cléricalisme, c'est-à-dire cette concentration de tous les pouvoirs, pouvoir d'enseignement, pouvoir de gouvernement, le pouvoir sacré dans les mains exclusivement des prêtres et des évêques, dans une sorte d'entre-soi. Moi, je pense que nos cultures sont profondément démocratique et qu'il n'est pas absurde d'envisager qu'il y ait une forme de contagion des systèmes de régulation démocratique dans l'Église. Tous les pouvoirs doivent être contrôlés, y compris le pouvoir religieux, et qu'il serait bienvenu d'aller chercher dans la société les modes de régulation qu'on connaît. Alors évidemment, je peux aussi enfourcher mon cheval de bataille, qui est celui de la l'égalité entre les hommes et la femme et de la parité. Il me semble que effectivement, dans les sociétés dans lesquelles nous sommes, la présence des hommes et des femmes dans les systèmes de décision et de gouvernement, y compris dans celui du pouvoir sacré, serait une bonne chose. C'est décléricaliser l'Église. La grande question, c'est
en faisant intervenir une forme de contre-pouvoir qui serait nos démocraties, les États.
Oui, c'est ça. En fait, absolument, parce que.
Mais ça, personne n'en veut.
Ben, peut-être que si, peut-être que précisément tous les honnêtes fidèles le veulent, et peut-être que beaucoup de prêtres le veulent aussi. Parce que c'est pas sûr que finalement ils aient tous envie d'être vêtus de poids de ce pouvoir sacré. Je ne suis pas certaine que tous trouvent ça si jubilatoire et jouissif de se prendre pour Dieu. Je ne veux pas le croire pour ma part.
Ce qui expliquerait d'ailleurs en partie peut-être pour vous la crise des vocations ou le mal-être des prêtres. Et donc à travers cette réforme en profondeur de l'Église, vous y voyez la possibilité de relancer.
Oui, vous savez, moi, je suis une grande lectrice des textes originaux de l'Évangile. Je trouve qu'il y a une sorte de jubilation dans ces textes-là, qu'il y a une sève qui sans cesse peut régénérer l'arbre. Je suis pas du tout désespérée. Et puis c'est comme ça que je termine le livre, mais j'ai envie de le dire ici, c'est que l'expérience du christianisme, c'est que après la mort, il y a de la résurrection. Même si en ce moment il y a des choses qui vont pas bien dans le système, et même si des choses meurent, nous pouvons souhaiter qu'elles ressuscitent plus vivantes.
Merci beaucoup à vous, Christine Pedotti. Qu'avez-vous fait de Jésus, sous-titré Les silences coupables de l'Église. Votre livre vient de paraître chez Albin Michel. Tout de suite, c'est le rendez-vous de la médiatrice où il sera aussi question de cultuel et de culturel avec l'invité d'Emmanuel Davier, Sandrine Trainer, France Culture. Il est 13h23.
La Grande Table, le rendez-vous de la médiatrice.
Et bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Olivia.
Et bonjour à votre invitée, Sandrine Trainer, directrice de France Culture.
Bonjour Olivia, bonjour Emmanuel.
La parole est à vous.
Sandrine Trainer, bonjour. Marie écoute régulièrement votre chaîne et se dit surprise de l'absence de diversité. Je cite cette auditrice, « Tout le monde pense la même chose, à gauche. Tout le monde plaint les femmes, les pauvres victimes. Et les problèmes d'identité sexuelle et de genre prennent une place considérable. Pourrait-on enfin parler d'autre chose ? France Culture a vocation à diffuser de la culture, où sont passées les émissions spirituelles, les émissions humoristiques. Sandrine Trainer, comment expliquez-vous cette perception uniforme de l'antenne ?
Alors, Emmanuel, si vous me le permettez, je voudrais juste prendre 30 secondes pour rappeler ce que nous savons bien, vous et moi, c'est que ce rendez-vous précieux n'est que la partie immergée de l'iceberg du travail que nous menons ensemble tous les jours, que tous les jours des auditrices et des auditeurs s'adressent à vous, s'adressent à moi directement. Et je voudrais dire aujourd'hui, parce que je pense que dans cette période, c'est important, qu'il faut que nos auditeurs et nos auditrices n'hésitent pas à nous écrire, à m'écrire, et que je réponds chaque soir en ce moment. Je prends le temps et je réponds à chacune et chacun. Je pense que c'est essentiel. Je dis ça parce que, comme forcément, les questions que vous m'adressez sont toujours un peu des questions à charge, ce qui est normal, mais qu'il y a aussi beaucoup de courriels qui sont des courriels qui demandent des explicitations, tout simplement. Je voudrais pas avoir le sentiment, simplement, que je réponds en nous défendant. C'est loin d'être le cas. Donc, voilà, écrivez-moi, je réponds. Alors, écoutez, j'entends cette remarque. Moi, je ne le ressens pas exactement de cette façon-là. Il me semble qu'à travers un certain nombre d'émissions, le grain à moudre de l'esprit public, à travers même des formats documentaires comme Les Pieds sur Terre, à travers la diversité des invités que nous recevons, que nos productrices et producteurs reçoivent à l'antenne, il me semble qu'on entend une grande diversité de choses. Mais néanmoins, les études nous montrent qu'effectivement, nos auditeurs ont le sentiment, de manière générale, c'est une des critiques adressées au service public, que nous ne faisons peut-être pas entendre aussi largement que ça, aussi largement que nous le pensons, la parole, y compris les paroles extrêmes. Alors, la contradiction, c'est que quand on le fait, quand il arrive qu'on le fasse, on se fait immédiatement rappeler à l'ordre en disant « Mais pourquoi est-ce que vous faites entendre des paroles extrêmes ?» Néanmoins, je pense qu'il faut entendre cette question de la diversité des sujets et des points de vue. C'est évident. Et que même si, voilà, on y est, il faut y être
sensible. Alors, comment vous allez y remédier ?
Mais on y, en fait, c'est, ça fait partie des éléments de la vie de la chaîne, c'est-à-dire de, vous savez, tous les lundis matins, nous nous réunissons tous ensemble et on regarde ce que l'on pourrait faire mieux parce qu'il est évident que nous sommes, comme tout un chacun, perfectibles et que ces questions de diversité des points de vue, Olivia pourrait vous en parler, est très régulièrement, régulièrement abordée dans cette réunion et voilà, nous y veillerons. Voilà, c'est ça que je peux répondre.
Vous avez cité le grain à moudre. Patrick, un auditeur, souhaite réagir justement vivement aux propos tenus par Brice Couturier lors de l'émission du grain à moudre le 4 janvier dernier. J'indique d'ailleurs que j'ai reçu de nombreux mails au sujet de cette émission. Voici un extrait du message de cet auditeur. Monsieur Couturier a déclaré que les émissions qui donnent la parole entre différentes sensibilités de gauche polluent le service public. Ces propos sonnent d'autant plus curieusement que Brice Couturier venait de se livrer à des considérations sur les analogies entre les années 30 et aujourd'hui. Or, un tel vocabulaire a des connotations fâcheuses. Il a ajouté qu'il faudrait respecter l'équilibre dans l'expression des opinions, ce à quoi le CSA oblige les radios, mais chacune de ses prises de parole le classe sans le moindre doute du côté de La République En Marche, alors qu'il est, si je ne me trompe, un journaliste d'une antenne de service public. Fin de citation. Sandrine Trainer, sur votre antenne, Brice Couturier a-t-il une casquette d'éditorialiste ?
Alors, je vais évidemment vous répondre. La première chose, c'est de, bon, c'est quasiment l'illustration de ce que l'on vient de dire sur la première partie. C'est compliqué le débat contradictoire parce que ce que les auditeurs pointent est parfaitement exact, mais ce qu'ils ne pointent pas, c'est qu'en fait, Brice Couturier était sorti de ses gonds parce qu'il réagissait à la position inverse. Précisément, c'est le principe du grain à moudre. Oui, je voudrais préciser, c'est très important que Brice Couturier ne fait pas partie de la rédaction des journalistes de France Culture. Il est bien éditorialiste.
Et la nuance, c'est
quoi ? Ça veut dire qu'il est là précisément. C'est la définition de l'éditorialiste pour porter un regard spécifique, un regard particulier, dès lors, voire personnel, dès lors qu'il est argumenté. Et c'est ça qu'évidemment on lui demande. Ça fait 20 ans que Brice Couturier fait ce travail sur l'antenne de France Culture. C'est très important de pointer évidemment la différence avec les journalistes de la rédaction qui sont évidemment tenus à une neutralité dans la présentation des journaux et des papiers.
Lors de la réunion du lundi que vous mentionniez tout à l'heure, évidemment, on suppose que vous êtes vigilant sur l'expression de la pluralité des opinions politiques.
C'est une obligation légale contrôlé par le CSA. Il nous arrive, alors contrairement à ce que pensent nos auditeurs, c'est généralement du côté de l'exécutif que nous sommes les plus faibles parce que nous recevons assez peu de paroles politiques et que nous n'avons pas tout à fait le nombre de ministres que nous sommes censés recevoir. Mais c'est plus une question d'impossibilité quasi technique qu'autre chose. Mais oui, bien sûr.
On termine avec Alain. Il écrit « Je connais l'article 18 du cahier des charges de Radio France qui impose la diffusion d'émissions cultuelles. Toutefois, et dans l'intérêt majeur de ces cultes et en particulier du catholique, ne pourrait-on pas diffuser ces émissions et la messe en particulier sur d'autres antennes, France Inter par exemple? Rien ne s'y oppose dans le cahier des charges. Les 10 cultes y gagneraient largement en audience et permettraient à France Culture d'en revenir à sa vocation première, la culture, la vraie. » Alors Sandrine Trainer, a-t-il déjà été envisagé de confier la diffusion d'émissions culturelles à d'autres antennes comme France Bleu, Inter ou France Musique ?
Alors je crains de ne pas avoir le temps de répondre tout à fait avec le temps qui serait nécessaire. Alors d'abord, rappelez juste en un mot que si ça se passe sur France Culture, c'est en raison du nombre d'émetteurs de France Culture qui, depuis l'origine, est une des antennes avec France Musique qui est la mieux répartie sur l'ensemble du territoire. Donc c'est une question de service public. Est-ce que ça pourrait être autrement ? Oui, ça pourrait, techniquement évidemment rien ne s'y oppose. Est-ce que c'est prévu ? Non. En revanche, je voudrais juste dire que, attaché à la laïcité, c'est-à-dire à la codification de la place des religions dans notre société, je pense qu'on peut faire du culturel à travers les émissions religieuses. Et je pense que, voilà, Khaled Bencher, dans son émission, Marc-Alain Ouattine, dans son émission, le montre par les débats et les rencontres qu'ils organisent autour de la culture. La religion fait partie de notre univers culturel. Les religions.
Merci Sandrine Trainer.
Et les cultures. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Emmanuel Davier, merci Sandrine Trainer et à toute l'équipe de La Grande Table. Il est 13h31 sur France Culture. On va filer rejoindre Sonia Krenoun pour Les Pieds sur Terre.